Comment est-il possible de gagner en perspective, analyser les enjeux avec rigueur et influencer le succès de l'organisation? Avant de débuter l'épisode, nous avons une annonce spéciale à vous faire. Maîtriser la pensée stratégique est l'une des compétences les plus en demande au sein des organisations. Et nous voulons aller plus loin que le podcast. Au courant des 5 prochains jours, nous lançons la prévente de notre atelier en ligne « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique ». Cet atelier cohorte vous permettra d'aborder des enjeux stratégiques avec confiance et vous permettra de développer et communiquer des recommandations sur des bases solides. Nous ouvrons 10 places pour une inscription anticipée à notre atelier avec une énorme réduction en échange de vos commentaires durant la phase de finalisation de l'atelier. Notre futur atelier « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique » est disponible pour quelques jours avec une réduction de 50%. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au prix réduit de lancement. N'attendez pas, ces 10 places sont disponibles jusqu'au vendredi 26 avril 2024 à 18h. Inscrivez-vous en suivant le lien en description ou visitez-nous au www.inteliaconsulting.com/formation.
Bonjour. Qui n'a pas entendu parler de transformation numérique ces dernières années, et en particulier depuis la survenue de la pandémie liée au SARS-CoV-2? Nous en avons parlé avec Matthew Cohen et nous avons parlé de 5G dans des épisodes précédents. Nous voulons aujourd'hui parler de cybersécurité avec Kamel Nouas dans un vocabulaire facile à comprendre. Monsieur Nouas détient un baccalauréat en sciences de l'informatique obtenu en 1978. Il s'est spécialisé durant les 15 dernières années en audit et en gestion de la sécurité des technologies de l'information. À ce titre, il a travaillé dans différents secteurs. Il a fait partie du groupe de sécurité de Deloitte de décembre 2000 à janvier 2014 et à ce titre, il a été en mandat dans plusieurs compagnies comme la Banque TD, Bell, Hydro-Québec, le Mouvement des Jardins et la Banque de Montréal. Au cours des 6 dernières années, il a travaillé à son compte pour IBM, pour Air Canada, en tant que PCI Compliance Manager, et pour la Banque nationale du Canada, en tant que conseiller senior en sécurité. Et enfin, à ce jour, comme directeur principal pour KPMG. Bonjour Kamel, comment vas-tu?
Bonjour Jean-François, ça va très bien, merci.
Kamel, tu es un expert, je te considère comme un excellent expert en cybersécurité. Parle-nous de comment tu vois la transformation numérique post-COVID-19. Technologie, usage, qu'est-ce qui bouge lentement, qu'est-ce qui bouge vite? Hein? Parle-nous de ta vision.
Ok, je vais te dire, ma vision, elle se fonde un peu sur ce qui se... C'est tous les événements qui sont passés, donc si je regarde l'avenir... Il faut que je me remémore qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est passé. L'informatique, c'est une série d'opportunités. Dans la vie, là, je veux dire, c'est une série d'opportunités. Les opportunités ont toujours permis, j'allais dire, de faire des bons, d'amélioration pour aller vers plus d'informatisation, pour aller vers plus de mécanisation, plus d'automation. Si je vais juste, disons, les grands bons que j'ai vus dans ma vie, on était des, et moi je fais partie de la bande de gens qui travaillaient, ça fait très longtemps, donc dans les mainframes, quand on était les gourous, je veux dire, de ces paysages-là à l'époque. Et puis un jour, la micro-informatique est venue. Et la micro-informatique a transformé vraiment l'information parce qu'il était possible à de petites entités, à de petites zones, ou de petits segments, j'allais dire, de l'entreprise, de travailler de manière autonome et d'essayer de se connecter vers autre chose. Donc ça a permis, j'allais dire, une sorte de démocratisation, une première démocratisation de l'informatique. Le deuxième, disons, un bond que j'ai vu aussi, c'est de passer du micro-ordinateur classique à un micro-ordinateur avec une souris et tout ce qui vient avec. C'est-à-dire de passer, de pouvoir utiliser ton micro-ordinateur d'une façon connectée. Évidemment, il y a Internet qui est arrivé à un moment. Et oui, toute cette connectivité s'est faite d'une certaine façon pour aller, j'allais dire, de plus en plus d'informations. On va de plus en plus vers... Quand on dit numérisation, pour moi, c'est beaucoup utiliser l'informatique d'une certaine façon. Aujourd'hui, on a une nouveauté qui s'appelle la COVID-19. Ça fait quand même 2 ans qu'on y vit dedans.
Oui.
Et puis ça a amené quelque chose de nouveau, mais comme peut-être qu'il n'est pas perceptible pour tout le monde, mais cette nouveauté, elle est liée au fait qu'aujourd'hui, on travaille de chez soi.
Oui.
Et il faut comprendre que tout le monde n'était pas préparé pour travailler de chez soi. Parce que ça prend quand même des VPN, bien fait, ça prend de la sécurité.
Oui.
Ça prend j'allais dire, de l'information qui est portée vers chez toi. Ce n'est plus le comment on appelle ça, le poste classique, etc. Donc, on va vers d'autres choses.
Oui.
Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de démocratiser encore beaucoup plus le travail des individus. Et il y a un bénéfice, autant pour l'individu lui-même que pour l'entreprise aujourd'hui. Parce que se débarrasser, des vieux emplacements qui sont fixes, aujourd'hui, on peut travailler pratiquement n'importe où dans le monde, et donc cibler des marchés qui sont complètement différents. La grosse affaire là-dedans, c'est celle-là. Évidemment, cela ne va pas sans risque. Parce que derrière, quand vous êtes chez vous et que vous n'êtes plus, protégé dans votre réseau particulier, vous avez des enjeux qui sont différents. Donc, les enjeux sont des enjeux de sécurité, de cybersécurité. Et pour moi, la cybersécurité, c'est vraiment, vraiment de la gestion au day-to-day. Donc, souvent, les gens pensent que c'est vraiment, c'est le hacking, on parle beaucoup de choses, mais en fait, c'est de la gestion de day-to-day. Si tu veux vraiment te prémunir des choses, c'est ça qu'il faut faire. Évidemment, il y a plusieurs angles. Okay,
mais est-ce que c'est protéger un ordinateur? Est-ce que c'est protéger un réseau? Qu'est-ce qu'on veut dire par sécurité? Cybersécurité. Comment définirais-tu la cybersécurité aujourd'hui?
OK. En fait, il n'y a pas juste un endroit à défendre. C'est ce que, comme disait quelqu'un, il disait, est-ce qu'on peut faire de la sécurité comme on fait du vélo? On apprend ça une fois et puis on est tranquille. Non. Donc, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. J'ai entendu ça de vrai. Hein.
Oui, oui.
Et je te dis, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça tout simplement parce qu'il y a plusieurs endroits, plusieurs façons de sécuriser, son informatique. D'abord, un truc simple. Est-ce que, on a nos cams, on se connaît bien, mais est-ce que vraiment Jean-François est bien le Jean-François que je connais? Qu'est-ce qui me permet de m'assurer que Jean-François est bien Jean-François?
Oui.
Ça, c'est le premier, c'est tout
le premier niveau.
La gestion des accès et des identités derrière. Donc, avec toute la problématique qui se pose, avec toute la puissance, aujourd'hui du connu, donc les mots de passe forts, ce qu'on appelle les facteurs d'authentification, est-ce que tu signes avec quelqu'un, qu'est-ce qui me permet de m'assurer que je suis en train, surtout quand on est sur Internet. Donc ça, c'est le premier, c'est un ré. Qu'est-ce qui me permet de me dire que mon transport de chez moi à chez toi est correct?
Donc,
on utilise des VPN, on utilise évidemment de l'encryption avec toutes les problématiques que ça pose. C'est-à-dire utiliser les bons moyens, mais pas que. On utilise des infrastructures. On s'assure aujourd'hui que ces infrastructures, quand elles se parlent entre elles, le lien est toujours sécurisé. On sécurise par de l'encryption. Donc ça, c'est une partie. On s'assure aussi que nos machines, tout ça, c'est de la sécurité. On s'assure que nos machines sont... ne contiennent pas, de problématiques vieillottes qui sont connues et qui permettent à des... Donc, on met des patchs, des rustines et compagnie.
Oui, oui.
Cette organisation-là est derrière. Tout ça, il y en a plein. Il y a à peu près 10 domaines où on peut voir l'information. Même les domaines juridiques à l'intérieur. Si je risque rien, pourquoi tu ne voudrais pas que j'essaye?
Oui.
Donc, c'est tous ces aspects-là qui disent voici, la cybersécurité englobe tous ces aspects-là. Et de plus en plus, on est beaucoup spécialisé, les gens se spécialisent. Il y a très peu de gens qui connaissent, je dirais pas qu'ils connaissent dans le détail tout, mais qui connaissent tout
l'ensemble. Ouais.
Pourquoi? Parce que il y a des chances comme ça aussi. Quand on fait de l'audit, on a une vue sur l'entreprise qui est différente que le gars de la sécurité qui est pointé sur un problème particulier.
Oui.
L'audit permet, de comprendre l'entreprise par le biais de ses affaires et de comprendre comment elle sécurise ses affaires.
D'accord.
Donc ça aussi, c'est de la sécurité. Voilà en gros disons, ma réponse à la cybersécurité.
Ah, non, c'est un monde complètement nouveau. Donc c'est les accès et la transmission, c'est aussi sécuriser les machines et sécuriser entre guillemets, ce que je comprends, les réseaux internes ou les organisations informatiques internes à l'entreprise qui sont, elles, reliées à des processus d'affaires et des façons de faire et d'échanger des informations entre partenaires internes ou partenaires externes.
Entre autres, évidemment.
Hein. Ouais. Alors, comment, dans ta vision, dans ton expérience dans les 5-10 dernières années, comment les entreprises ont-elles fait évoluer leur vision et leur pratique face aux questions de cybersécurité? On parle beaucoup de multiplication de points d'accès. Les gens, maintenant, peuvent interfacer ou interagir avec leur banque à travers leur téléphone, à travers leur terminal, à travers un guichet automatique et à travers, bien sûr, une succursale, même aussi à travers le téléphone. Donc, il y a énormément de façons d'accéder à nos informations. Je prends le secteur bancaire parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais est-ce que c'est la multiplicité des accès qui a forcé une certaine évolution? Est-ce que c'est la puissance de calcul? Qu'est-ce qui fait évoluer les entreprises dans leur vision de la cybersécurité aujourd'hui?
Okay. Il y a plusieurs choses. Hein. Il y a ce que je disais tout à l'heure, les opportunités qui se posent. Il y a aussi la puissance de calcul, c'est clair. Je veux dire, aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à travailler, le coût d'un octet, d'ailleurs, un des problématiques qu'on avait sur l'an 2000, c'est qu'on positionnait, j'allais dire, l'année sur deux positions. Eh bien, si bien quand on est arrivé à l'an 2000, on était avec deux positions, c'est 0-0. On savait plus si c'était 1900 ou 2000. Et donc, on a été obligé d'étendre. Pourquoi on a étendu? On était capable d'étendre parce que le coût de l'octet a diminué drastiquement et ça a permis aux gens, j'allais dire, d'améliorer leurs affaires. Donc, un, c'est la puissance, le coût. Donc, il y a cette... Et puis, l'évolution des technologies aussi, les points d'accès, il y en a beaucoup aujourd'hui, on peut permettre à des gens d'aller... Et puis, il y a aussi le génie des gens, hein, le génie humain. Ouais. Quand on met un ordinateur entre les mains de quelqu'un qui commence à comprendre, il voit très bien le bénéfice de ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, sur l'Internet, par exemple, les gens qui font, au niveau de la business, par exemple, des gens qui ont, je ne sais pas moi, peu importe ce qu'ils font, je ne sais pas moi, par exemple, dans l'habillement ou un truc comme ça, ils se rendent compte qu'ils peuvent habiller quelque chose, qu'ils peuvent vendre des choses directement à travers un... Tu veux choisir un truc, tu as le poids là. Donc, on a déjà... Ça fait longtemps. Hein. Donc, le génie humain est derrière et il pousse justement à... plus de performance, plus d'activité et plus de... Évidemment, tout ça crée encore. Plus vous allez ouvrir et plus c'est difficile à gérer. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de gens, on a beaucoup de systèmes qui sont liés. Il n'y a pas un système qui est général. Il y a beaucoup de systèmes qui doivent être gérés. On doit s'assurer que les accès sont corrects, etc., etc. Toute cette problématique, elle se pose. Évidemment, on s'assure que cette problématique se fait correctement.
Oui.
Et c'est pas évident. Je vous dis, c'est pas évident parce que quand je disais tout à l'heure que c'est un problème de gestion, ça veut dire qu'on gère tout le temps. Un exemple que les gens ne comprennent pas. Vous savez que dans les systèmes, il y a toujours ce qu'on appelle les logs, de la journalisation qui est.
Exact. Ouais. Ouais.
Au niveau de la journalisation, c'est bien de journaliser, mais il faut capter quelles sont les problématiques qui sont derrière. Et quand on capte une problématique, il faut l'assumer. Un exemple simple. Jean-François a touché le fichier de paye. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec le fichier de paye? Est-ce qu'il a droit de le toucher ou pas?
Ouais.
Et s'il le touche, je veux savoir pourquoi il a touché. Et j'investigue pourquoi il a touché. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a touché? Donc, toute cette problématique, c'est de la gestion day-to-day. Ça, c'est juste un exemple. Imaginez des logs, c'est des millions de logs. Mm-hmm. Donc, on fait des filtres. Aujourd'hui, on a des produits qui sont... C'est important d'y arriver, là. On a des produits qui se font de plus en plus sur l'intelligence artificielle pour capter tous ces bruits qui viennent pour les réduire à leur simple expression.
Ouais.
Donc ça, c'est aussi un monde. Et on voit comment la numérisation arrive, comment la jonction entre l'intelligence artificielle et puis les puissances de calcul, comment elle arrive. On ne pouvait pas le faire avant. Aujourd'hui, on le fait. On avait moins de problèmes avant parce qu'on avait moins de détails qu'aujourd'hui.
Oui.
Voilà un peu la problématique qui se pose là-dessus.
Oui, donc les machines génèrent plus de données sur justement ces connexions ou ces demandes de connexion ou ces tentatives de connexion. Et en même temps, bien, vous automatisez des routines pour essayer de comprendre et d'enlever le bruit de fond. Un peu comme tu dis, j'étais au CERN à Genève il y a quelques années, pré-COVID, et eux, à chaque fois dans le LHC, le Large Hadron Collider, à chaque collision, ça génère des téraoctets de données dont effectivement plus de 90% est sans intérêt. Mais ils ont dû développer des routines pour justement aller capter les signaux faibles mais intéressants pour les chercheurs. C'est passionnant de le voir de cette façon-là. La 5G, on parle beaucoup de 5G aujourd'hui.
Avant de parler de la 5G, j'aimerais juste rajouter des petites choses qu'on oublie quand on parle. On parle du hacking. Effectivement, aujourd'hui, quand on est une banque, on était une banque. On avait un guichet avec de l'argent quelque part. Il fallait être courageux, téméraire. Il fallait prendre un fusil ou en tout cas, et attaquer la banque et puis avec tous les risques et périls qu'il y a aussi. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Oui. Je veux dire, le gars qui est dans son sous-sol quelque part et qui est mal intentionné, par mal intention ou par curiosité, il peut attaquer des systèmes et faire du mal au système. Mm-hmm. Donc, imagine. Et puis, partant de là, là on parle du petit hacker, mais on peut trouver des bandes de hackers. Je veux dire, c'est la banque. Quelqu'un qui vise 3 millions ou 4 millions de dollars quelque part, ben, il peut patienter une année, deux ans à pêcher 4 millions de dollars.
Ouais, ouais.
Donc, il a le temps de réfléchir, de préparer ses attaques, etc. Donc, voilà. Il ne faut pas parler de cybersécurité sans parler des attaques, j'allais dire, plus grandes, qui sont des attaques de nations aujourd'hui, on les voit. Oui. Pegasus, des trucs comme ça, voilà.
J'osais pas t'en parler parce que ce sont des sujets de géopolitique très sensibles. On voit bien que des entités très puissantes et très organisées génèrent des attaques ici et là. Mais c'est pas l'objet. On y reviendra, Kamel, si tu veux en discuter plus en profondeur. C'est un domaine passionnant. Mais restons sur le plancher des vaches de l'entrepreneur ou du dirigeant d'aujourd'hui. La 5G, qu'est-ce que ça va faire en matière de sécurité ou de cybersécurité et comment essayer d'en tirer parti ou de se prémunir? Quelles sont les mises à jour à faire pour un entrepreneur pour pallier à l'arrivée de ces nouveaux réseaux ou de ces nouveaux accès?
Ben la première chose, ta 5G, elle ne fonctionne pas sur les... Si tu as un vieux téléphone, ça marche pas. Donc, il y a probablement de l'équipement à revoir. Mais en fait, au niveau de la 5G, ça va pas changer fondamentalement, j'allais dire, la manière de travailler, mais la rapidité avec laquelle on le fait. C'est surtout la rapidité et puis toutes les problématiques de connexion qu'il y a derrière. On peut avoir maintenant avec la 5G, n'importe qui peut se connecter d'une certaine façon, beaucoup plus rapidement. En fait, c'est de la rapidité. On est dans des antennes qui sont proches. On n'est plus, j'allais dire, dans le truc qui est en haut ou le câble qui limite un peu les espaces, etc. On est dans une configuration où tout se parle avec tout le monde. Évidemment, au niveau sur le plan de la sécurité, je veux dire, honnêtement, on n'a pas vu encore fonctionner des choses. Parce que je ne suis pas encore au niveau de la 5G là-dessus, mais c'est-à-dire quelqu'un qui regarde ça, il appréhende un peu le problème de sécurité, je suis un peu confiant sur ce problème-là parce que ça vient avec des choses, c'est-à-dire les gens qui créent ce genre de technologie, ils la ramènent avec.
Eux aussi ont évolué dans leur approche à la sécurité. Donc, ils ont sécurisé leurs protocoles. Les protocoles 5G ne sont pas les protocoles de la vieille 2G ou du vieux TDMA. C'est intéressant. Et les individus, tu as parlé de la créativité humaine, l'aspect humain, à la fois pour le bien. Donc, autrement dit, je veux utiliser l'information pour développer un avantage compétitif ou présenter mon offre de produits ou de services d'une manière différente ou à des marchés différents. Tu as parlé aussi que les individus, comme tu dis, peuvent être mal intentionnés individuellement, collectivement ou, entre guillemets, nationalement. Est-ce que tu vois toujours cette soif de nouveaux services numériques chez les individus? Et est-ce que tu vois toujours la même bonne vieille résistance au changement pour les collaborateurs au sein des entreprises? Comment vois-tu ce tiraillement-là entre besoin de nouveauté et résistance au changement des collaborateurs au sein des entreprises?
La résistance au changement est un phénomène naturel chez les gens qui travaillent dans les entreprises. Donc, à chaque fois qu'il y a une modification, j'ai dit, quand on n'est pas vraiment dedans, là, je veux dire, moi, je vois, par exemple, quand on veut faire, par exemple, un changement dans un système, les gens, leur premier réflexe, s'ils ne se trouvent pas dedans, ils ne se mettent pas. Et la gestion du changement est un accompagnement absolument nécessaire et de plus en plus important pour que les choses se fassent de manière. Souvent, c'est un peu la partie oubliée des gens. Et puis, les gens ne se rendent pas compte qu'ils se cassent la gueule parfois à cause de ce genre de choses. Simplement parce que le gars qui est à côté n'adhère pas simplement parce qu'on ne lui a pas dit, il trouve ça difficile, il trouve ça compliqué et tout. Alors que des fois, une petite explication simple. On a beaucoup de gourous aussi chez nous. Hein.
Ouais.
Au lieu de parler d'Internet des objets, on dit l'IoT.
Ouais.
Si le gars, tu lui dis l'IoT, il te regarde de travers. Là, c'est vrai qu'il y a un jargon, il y a une façon de faire, Et donc, moi, je pense que la gestion du changement est quelque chose qui va être bousculé de toute manière. Elle a toujours été bousculée, puis tout, ça a toujours fini par bien marcher. C'est juste un frein qui peut freiner les choses, mais qui ne freine pas une évolution. Ouais. Quand on a un bon produit, quand on a une façon de faire,
il va trouver son marché. Il va trouver ses usagers.
Et puis, le génie humain a ça aussi. Parce que si... Puis je vois les jeunes, comment ils réagissent. Nous, on se bagarre tous les jours. La vérité, je suis en fin de carrière, là. Et je vois que les jeunes se bagarrent beaucoup pour mieux comprendre, pour mieux cerner. Et puis, c'est des éponges. Quoi. Par rapport à nous, on est comme des éponges saturées, là. Mais les jeunes, mais c'est vrai. Les jeunes arrivent avec beaucoup de choses. Et puis, ils ont toute notre expérience. Je veux dire, il faut surtout la donner. Je veux dire, toute l'expérience est là. Et puis, ils l'apprennent et puis ils avancent. Et tu vois vraiment, par exemple, des fois, tu travailles avec quelqu'un, tu dis, voilà, comment il faut faire, etc. Et puis, tu te rends compte que lui, à partir de ce que tu lui donnes, il crée autre chose. Et cette créativité, elle a toujours existé. Hein, depuis que je suis, ça fait 45 ans à peu près.
Ouais.
Voilà, ça situe un peu mon âge, donc j'ai 45 ans. Donc, ça permet un peu de... C'est cette créativité-là qui pousse un peu les gens. Et puis, je l'ai toujours vu, hein, je veux dire, cette créativité. Et ça va permettre un peu aux gens d'utiliser cette... Puisqu'on parle de la 5G, cette 5G qui donne de plus de puissance, elle va juste permettre à des connexions beaucoup plus importantes que celles qu'on avait. Ça veut dire, si je bouscule un peu les questions un peu, on va vers l'Internet des objets. On a parlé des Internet des objets. Aujourd'hui, au niveau d'une maison, avant, l'informatique, elle n'était pas dans la maison, à part le petit poste de travail qu'on avait.
Exact.
Le téléphone est rentré. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai ma musique, j'appelle la musique « Musique moi », et puis elle me donne la musique que je veux.
Oui.
J'ai froid, je dis « augmente la température ». Pour les gens qui sont… Ce n'est pas encore démocratisé, ça, mais ça va se faire. Disons qu'aujourd'hui, c'est quand même l'apanage de gens qui connaissent un peu cette technique. Mais ces techniques, une fois qu'elles vont être beaucoup plus absorbées, ben, ça va être tellement naturel que… Qui aurait pu penser que ça, un enfant utilise
Ah oui, non, ça c'est là, pour moi, c'est un des... tu parlais de moments dans l'évolution des technologies de l'information. Moi, c'est donc l'arrivée de l'Internet, donc cette capacité d'aller interagir, de sortir de mon ordinateur et d'interagir avec d'autres d'une certaine façon. Ça, c'était un grand point. Mais le 2007 et le téléphone intelligent, et moi, je peux imaginer justement quand tu dis ces jeunes-là pour qui ces téléphones-là ont toujours fait partie de leur vie. Autrement dit, pour eux, Internet a toujours été partout.
Oui.
Ça doit changer une façon de voir une situation ou une problématique ou des opportunités que toi et moi, d'une autre génération antédiluvienne, ne voyons pas toujours nécessairement. Tu parles d'IoT, j'allais faire une petite boutade pour dire j'ai très hâte qu'il y ait de l'IoT dans mon chauffe-eau pour me dire quand est-ce que je dois le changer et non pas être obligé de le changer à intervalles réguliers selon ce que ma compagnie d'assurance me dit. Mais on est au début et quels sont les risques en matière de cybersécurité? Est-ce que mon réfrigérateur peut commencer à attaquer mon PC du jour au lendemain?
Non, c'est pas aussi, c'est pas aussi
caricatural.
Voilà, c'est pas aussi caricatural. Mais en fait, la problématique est la suivante. Déjà, on avait vu ça avec les connexions réseau qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le Wi-Fi là. Quelqu'un de l'extérieur, si on prend pas garde, quelqu'un de l'extérieur peut rentrer chez vous et regarder un peu ce que toutes vos informations. Mmh. Donc ça, c'est un risque. Je veux dire, plus vous allez mettre des choses nouvelles à l'intérieur de la maison, peut-être que vous allez les configurer de la mauvaise manière et que quelqu'un à travers ça peut regarder, peut vous voir ou regarder votre télévision. Ça existe, ça. C'est pas des choses qui sont... Donc il y a des problématiques comme ça qui vont se poser. Elles vont être réglées de... Je suis convaincu qu'il y aura des gens qui vont y couper. Le problème de la, on parlait d'opportunité, mais une des opportunités que j'avais oubliées, c'est que, tu sais, les grandes, comment on a commencé vraiment à regarder les problèmes de la sécurité sérieusement? Mais alors sérieusement? C'est quand il y a eu de gros dégâts, quand on a perdu de gros fichiers, quand on s'est trouvé bloqué. Et ça a muté tout le monde. Attention, là, il faut que l'informatique personnelle, l'information personnelle, puisse être conservée. Il ne faut pas que quelqu'un me vole mon NAS. Et la problématique avec ça, c'est ça la problématique. C'est une des problématiques, c'est qu'on ait des vols d'identité de plus en plus nombreux, déjà qui sont nombreux aujourd'hui, mais peut-être que ça va être un peu plus facile.
Ouais.
Imagine quelqu'un qui sait que on a une nouvelle connectivité et puis qui passe avec sa voiture quelque part, il prend toutes les... C'est possible, hein? Je veux dire,
ouais, tout ça, ouais, c'est ouais, ouais.
Il prend... Un autre exemple, déjà, on est dans la maison, quand on pense à IoT, on pense toujours qu'on est dans la maison, mais on peut très bien utiliser des feux rouges à l'extérieur d'une ville. On peut toujours aussi utiliser, j'allais dire, ces réseaux connectés, parce que c'est de la connectivité.
La connectivité, oui.
On va regarder les transports, les trucs. Je donne un scénario catastrophe, je pense qu'il ne va jamais arriver, mais je dis un scénario parce qu'on est dans l'imagination, là-dedans, imagine quelqu'un qui s'amuse à inverser des feux, qui, au lieu d'être vert, il est rouge, des deux côtés, ou vert des deux côtés.
Ouais.
Des attaques comme ça sont possibles, hein, je veux pas les suggérer aussi, mais je veux dire, celle-là, je peux la suggérer parce que je suis à peu près sûr qu'on est loin du compte, mais c'est ça la problématique.
Ouais,
au niveau de la sécurité, nous, regarde, on a un théorème au niveau de la sécurité qui dit quand les choses peuvent empirer, alors elles vont empirer. Et c'est comme ça qu'on cherche.
Ouais.
Donc, on va les chercher comme ça. C'est comme ça.
Ouais. Donc, vous allez au-devant de ces questions-là. Une dernière question sur l'ordinateur quantique, le fameux ordinateur quantique. En as-tu vu? On dit que c'est le plus gros changement en matière de sécurité depuis je ne sais pas combien de temps. Qu'est-ce que tu vois? Quand on parle d'ordinateur quantique, qu'est-ce que ta boule de cristal nous dit?
OK. Moi, j'ai eu la chance d'assister à une conférence faite par des gens qui sont de l'université de Sherbrooke, il me semble, je me souviens pas très bien, et qui sont des maestros là-dedans, qui pourraient être prix Nobel un jour dans la mécanique,
l'informatique quantique, oui.
J'ai vu ça, et puis, ce que j'en ai vu, c'est à l'intérieur, comment c'est fait, je sais pas. On utilise de la physique, on utilise des principes physiques, je saurais pas. Mais je sais une chose. Il y a, l'utilisation, en gros, hein, ce que j'en ai compris, c'est qu'on utilise un peu les faisceaux de lumière pour pouvoir traiter l'information d'une façon différente que nous la regardons aujourd'hui.
Oui.
J'arrête là, parce que je ne veux pas aller plus loin dans les descriptions. Par contre, ce qui est vrai, ce qui est dit un peu dans toute la littérature que j'ai regardée, parce que c'est intéressant, hein, je veux dire, je me suis documenté, Et un des points, c'est la vitesse d'exécution des systèmes qui sont là. Deux choses. Cette vitesse d'exécution est effarante. Et puis, une des problématiques qui a été citée d'ailleurs par les gens avec Jacques, au niveau de la conférence, puis qui saute à l'esprit. Si j'ai un ordinateur qui est 1 million de fois plus rapide que le mien, est-ce que mon mot de passe actuel va
résister, résister. Ouais.
Parce que un mot de passe, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose. C'est on va essayer. Si on peut essayer, j'allais dire pendant longtemps, on peut toujours trouver. Donc ce qu'on appelle un brute force à l'intérieur.
Oui, oui.
Le brute force aujourd'hui, tel qu'on le connaît avec les systèmes actuels, quand tu mets un mot de passe de 12 caractères, tu peux courir des années et des années pour trouver le mot de passe. J'aurai le temps de changer, j'aurai le temps, j'allais dire, d'aviser et compagnie.
Donc oui, ça, oui. Ça,
sauf que quand tu as 1 million, ou je sais pas trop là, en tout cas, une vitesse extrêmement rapide, ton mot de passe, il est brisé en l'espace de... Tu dis, ouf, il est parti.
Ouais, ouais.
Toute ton activité aujourd'hui, qui est de ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a des systèmes entre eux qui communiquent entre eux, on met des liens entre eux et on utilise aujourd'hui du SSL, on utilise des certificats, on utilise de l'encryption.
Ouais.
Tout ça va sauter. Donc, il y aura probablement une autre façon. Honnêtement, je veux pas... il y a probablement, les gens pensent à cela au niveau de la sécurité, c'est sûr qu'on va mettre des dispositifs à l'intérieur, peut-être beaucoup plus compliqué que ce qu'on a aujourd'hui.
Ouais.
Il y aura ces dispositifs, c'est clair. Mais c'est un vrai problème. Il va falloir vraiment, au niveau de la transition, moi je la vois un peu, quand on ira vers cette transition, ça veut dire probablement qu'il y aura une cassure entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui va exister demain.
Ouais.
Et la deuxième chose, au niveau de ces systèmes-là, ils sont tellement coûteux, c'est des big, big, big machines.
Oui.
Qui vont se les offrir. Donc, probablement que l'accès, il se fera plus comme on le fait aujourd'hui avec mon petit PC, mais connecté à cette machine-là.
Oui.
Qui me permet d'avoir une rapidité extraordinaire qui va permettre à des météorologues, à des gens qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de calculs.
De puissance de calcul.
De faire encore mieux ce qu'ils font.
Donc, il y a une courbe un peu comme si on regarde les premiers gros ordinateurs IBM des années 50-60, avant d'arriver au PC tel qu'on l'a connu dans les années 90. Eh bien, il y a un peu de temps avant que l'ordinateur quantique rentre dans nos maisons et commence à devenir accessible au, entre guillemets, commun des mortels. Donc, on a encore un peu de temps avant de voir. Cela étant dit, ça peut toujours permettre à des groupes, comme tu dis, des groupes importants et qui ont beaucoup de ressources, avec des intentions douteuses de voir certaines choses. Une dernière question, Kamel. Si tu as un conseil à donner à un dirigeant, un PDG, un CEO aujourd'hui, peu importe la taille de l'entreprise en matière de stratégie de système d'information ou de cybersécurité, quel serait-il? Quel serait ce conseil-là que tu donnerais?
D'abord, bien réfléchir à ce qu'on veut faire en termes, qu'est-ce qu'on veut absolument derrière son système d'information. C'est les affaires qui drive les. Donc, il faut avoir vraiment son cycle d'affaires bien, bien, bien précis. Il faut regarder un peu les technologies qui existent et les plus sûres. C'est-à-dire, il faut pas s'aventurer.
Ouais.
Tu sais, je vois souvent les gens, ils prennent un truc parce que ça coûte moins cher, ils se jettent dedans et puis quelques années après, ils se trouvent coincés avec cette histoire.
Ouais. Ouais.
Donc, c'est, au niveau des choix des technologies, il faut faire très attention. C'est des choses qui sont importantes. Évidemment, bien se couvrir contractuellement, etc., etc.
Mm-hmm.
Et puis, quand on commence si on fait nos systèmes à l'interne, on fait très attention à ce qu'on fait.
Oui.
Je veux dire, la sécurité se met avant, pas après. Parce qu'une fois que le problème est là, c'est beaucoup plus difficile de le défaire.
Il vaut mieux du préventif que du curatif.
C'est souvent dans nos métiers, moi je vois un peu la sécurité, elle n'est vraiment sérieuse que lorsque les gens ont peur parce qu'ils ont perdu de l'information. Tant qu'ils n'ont pas peur, c'est un peu comme le funambule qui a l'habitude de marcher sur un fil et puis ils ne se rendent pas compte qu'il va tomber ou que enfin, c'est un peu ça la truc. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention. Et puis, il faut vraiment se questionner sur si je suis un CA et on me propose quelque chose, je vais me questionner sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'empêcher de dormir.
Ouais.
Je veux juste être sûr que quand je vais dormir, je me suis posé toutes les questions à un moment pour pouvoir dormir tranquille et de compter, de savoir qui sur qui compter en termes de responsabilité donnée et reçue, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Kamel, pour cet excellent entretien. Je suis certain que nos auditeurs en sortiront renseignés et grandis quant à ce sujet très complexe et au plaisir de te revoir sur le podcast sur d'autres sujets connexes.
Merci, Jean-François. C'était avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.